Paul Sécure, épisode spécial, je suis accompagné de Mathilde.
Bonjour à tous, bonjour Nicolas.
Ça va bien?
Ça va bien, et toi?
Très bien aussi. Notre premier enregistrement 2023. On commence en force parce que c'est quand même, on va parler de l'implantation du droit de la personne à travers les différents lois qu'on a vues. L'impression que le RGPD est probablement la plus importante, la plus connue à ce stade-ci qui vient articuler l'intention du législateur sur la protection des citoyens, des individus face à des entreprises de plus en plus importantes où l'information est maintenant rendue l'élément important. Je vais te laisser débuter avec ça, puis c'est un sujet qui est multifacette.
Wow, c'est le sujet peut-être le plus gros qu'on a traité jusqu'à présent. Il y a tellement de choses à dire et il y en a de partout. Donc, rien pour commencer, comme tu le disais, en fait, le droit des personnes, d'où ça vient, c'est aussi la volonté du législateur de renforcer les droits des personnes, leur donner plus de pouvoir par rapport à ce qui est fait de leurs renseignements personnels et protéger leur vie privée. Donc, qu'est-ce qui est fait de leurs renseignements personnels par une entreprise, un organisme public ? Donc c'est vraiment le cœur du sujet. Et donc ces lois, ça a commencé, ce renforcement des droits a commencé avec le RGPD qui a été une des premières lois qui a changé la perspective avec l'introduction de nouveaux droits. On connaît le droit d'accès en général, le droit à la rectification des données. Mais c'est une loi qui est venue, par exemple, ajouter des droits comme le droit à la portabilité, le droit à la limitation, droit d'opposition. Je ne sais pas si on va aller dans le détail de tous ces droits, mais chacun a ses spécificités, a des objectifs différents pour protéger les personnes. Mais ça passe aussi par une bonne information, parce que tous les individus ont droit à l'information de ce qui est fait sur leur renseignement personnel. Donc, ça fait aussi partie des droits des personnes et de ce qui a été renforcé. Puis avec la loi 25, par exemple, on est aussi dans ce même état d'esprit. On avait déjà des droits qui existaient au niveau du secteur public, au niveau du secteur privé, avec le droit d'accès, droit à la rectification. Puis avec la loi 25, on a des nouveautés qui arrivent, qui sont notamment le droit à la désindexation, qui est un droit à l'effacement, un droit à l'oubli. Et puis, on a le droit à la portabilité aussi, qui est semblable à celui qu'on retrouve en Europe. Donc, c'est deux droits aussi qui sont venus s'ajouter dans le landscape du Québec, je dirais. Et puis, là encore, il y a eu le renforcement de la transparence pour les personnes, même le consentement. Et une forme de droit en soi, parce qu'on a le droit de consentir au traitement de ses renseignements personnels, mais aussi de retirer son consentement pour que le traitement s'arrête. Donc, c'est aussi une forme de droit, je dirais, droit des personnes. Donc, ça a plusieurs facettes, tout ça, mais c'est un gros sujet.
Effectivement, un très gros sujet, puis c'est des renforcements, là, tu le mentionnais bien. Il y a eu des lois, ce que tu mentionnais, à partir des années 70 en Europe, il y a eu plusieurs lois qui sont apparues, puis on a suivi en Amérique aussi, il y a eu plusieurs lois qui étaient là, puis le RGPD ou la loi 25 ne sont que des améliorations significatives pour faire état du changement du marché aussi, parce que les technologies ont énormément avancé depuis les années 70, donc on n'est plus dans le même concept ou la même fluidité de l'information. Puis c'est probablement ça où le législateur a vraiment voulu s'assurer que les individus soient correctement protégés face à ces grandes corporations-là qui manipulent une masse assez élevée d'informations personnelles.
C'est ça. Ben, on a quand même un fort aspect historique. Par rapport à ce qui peut être fait avec les données d'une personne. Tu mentionnes l'Europe, c'est vrai qu'on en a parlé juste avant de commencer l'enregistrement, mais ça c'est quelque chose qui est très fort avec l'Europe. On a tout cet univers qui est lié à la Seconde Guerre mondiale. Et puis dans les années 70, notamment en France, on a eu un programme, une proposition de programme qui était le projet Safari. Et en fait, c'était un système qui permettait de réunir plusieurs informations d'individus pour créer une sorte de profil des individus en réunissant des informations sur l'aspect des infractions, l'aspect des taxes, l'aspect de la santé, si je ne me trompe pas, et qui sont des informations sensibles du fait de leur caractère. Puis en fait, nous, on avait cette histoire de la Seconde Guerre mondiale avec le monde nazi, je dirais, où il y avait déjà cette catégorisation des personnes en fonction de leur profil, leur religion, etc. Et c'était assez effrayant. Donc c'est comme ça que la première loi en France est venue dans les années 78, où il y avait déjà un environnement qui avait été construit. Puis l'Europe en soi était bien développée pour ça, parce qu'il y a eu l'Allemagne aussi qui a développé sa législation. C'est un des pays précurseurs. Puis dans les années 95, on a eu une première directive européenne qui s'appliquait à l'Europe. Et après, on a eu le RGPD qui est venu renforcer et mettre à jour parce que l'environnement dans lequel on vit change avec les nouvelles technologies, avec des nouveaux enjeux en fait qui n'existaient pas à l'époque. Et c'est exactement finalement ce qu'on retrouve avec une culture différente, évidemment. Mais c'est ce qu'on retrouve en fait même au Canada et au Québec, où des législations qui datent des années 2000 finalement ont besoin d'être révisées. C'est pour ça qu'on a aussi tout ce mouvement. Puis l'Europe a été le précurseur et on veut aussi s'aligner avec ça pour faciliter les échanges, mais aussi pour répondre aux besoins du monde actuel.
Oui, ben oui, justement, le monde actuel, parce que maintenant, on est dans un univers où l'information circule ultra facilement et rapidement. Fait que c'est très bien pour justement de changer ce chose. Tu mentionnais justement, il y a beaucoup de droits qui ont été ajoutés à des droits qui étaient déjà existants. Pour ce que j'entends dans mon entourage, c'est une personne qui ne savait pas qu'il y avait des lois qui existaient ou des protections qui existaient avant la loi 25 au Québec ou même chose pour le RGPD en Europe. Il y avait des protections, c'est juste des rehaussements de protections qui ont été faites. Puis c'est ça qui est très, très complexe. Puis au Québec, c'est encore d'autant plus complexe que la loi 25, les gens pensent que c'est une loi en soi. Et non, la loi 25, c'est une loi qui modifie d'autres lois. Et ça, cette nuance-là, je pense qu'elle n'est pas bien maîtrisée par les gens. Et c'est des ajouts dans au moins, je pense, c'est deux lois au Québec que ça vient modifier.
C'en a un peu plus, mais en fait, c'est principalement la loi d'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels dans le secteur public, et puis l'autre loi du secteur privé. Parce que au Québec et même au Canada, il y a vraiment la distinction entre le secteur public et le secteur privé. Puis après, on a certaines lois sectorielles comme les législations sur la santé qui ont leurs propres spécificités. D'ailleurs, il y a un projet de loi aussi qui est en discussion en ce moment pour cet aspect-là avec des enjeux de renseignement personnel. Et en fait, la loi 25, elle va aussi modifier certains articles de certaines législations, mais principalement, c'est vrai que c'est les deux lois principales.
Ouais, c'est là où les gens, c'est ça, ne maîtrisent un peu moins bien, mais parce que c'est le vocable de loi 25 donne cette illusion que c'est une loi universelle et pour l'ensemble, et non, il y a plein de petits, le plus petit nick-nack en arrière de ça qui entoure ça. Ça l'amène justement, ces droits-là amènent des conséquences dans les entreprises et au gouvernement, parce que la loi sur l'accès touche le gouvernement, la loi sur le privé touche les entreprises privées. Qui devra être tenu en compte. On a déjà parlé largement du fait de l'évaluation des facteurs d'avis privés, tous ces éléments-là. Mais ces droits-là ont des conséquences parce que les gens peuvent les exercer, ces droits-là. Et l'exercice de ces droits-là amène des conséquences autant pour les entités publiques que privées.
Oui, c'est un des plus gros enjeux. C'est, OK, la loi, elle apporte des nouveaux droits. Donc, les personnes vont pouvoir exercer ces droits. Mais qu'est-ce que l'organisation doit faire? Que ce soit l'organisme public ou l'entreprise, qu'est-ce qu'elle doit faire pour pouvoir gérer ce droit? Parce qu'il y a des conditions à l'application de ces droits, il y a des délais à respecter, et il faut s'assurer d'apporter la bonne réponse acceptable à la personne, parce qu'en conséquence, derrière, si on ne répond pas bien à une demande, ou qu'on refuse d'y répondre ou qu'on n'y répond juste pas du tout parce qu'on ne l'a pas identifié, qu'il y avait une telle demande, bah derrière, on peut avoir des plaintes qui sont effectuées par le demandeur auprès de l'autorité de contrôle, par exemple. Et donc, c'est un risque après d'être identifié par la commission d'accès à l'information, puis de faire l'objet d'un contrôle. Puis maintenant, la commission d'accès à l'information a des pouvoirs de sanction qui sont renforcés. Et c'est tout l'objectif aussi d'avoir des pouvoirs pour les autorités de contrôle qui sont renforcés avec des sanctions plus élevées. C'est pour obliger ces organismes à pouvoir gérer de telles demandes et respecter les droits. Donc,
oui.
Cet aspect-là est très compliqué.
Oui, ben, ça amène des nuances très importantes, ces nouveaux droits-là. Pour les gens qui ont l'impression que la Commission d'accès au Québec ne viendra pas sévir, je pense qu'ils font fausse route, puisqu'il y a déjà une première décision avec interprétation sur les nouvelles dispositions qui ne sont pas encore en vigueur. C'est ça qui est très fascinant, c'est cette décision-là, sur laquelle ils viennent taper sur les doigts d'une commission scolaire, mais ils sont très sérieux dans la démarche, puis je pense que prennent leur mission puis ces changements-là très à cœur. Donc, ces différents droits-là devront avoir justement des conséquences. Donc, il peut y avoir des plaintes, des éléments comme ça qui sont à faire. Puis justement, la première étape, c'est comment on fait pour gérer ces droits-là, comment on reçoit et comment on traite les demandes qui sont associées à ces droits-là.
Mais en fait, ça va. La clé pour l'organisme, c'est de se préparer, d'être capable de se préparer à une telle situation. Donc, on va mettre en place des processus, des procédures pour pouvoir gérer une demande de droit, quel que soit le droit. La procédure, je dirais qu'elle se fait en 5 étapes. 5 étapes clés qu'il faut avoir en tête. Ça va être la réception de la demande. Comment on va réceptionner la demande? Ensuite, identifier si la demande est valide parce qu'il y a des conditions à la demande. On va aussi identifier dans la procédure, comment on va traiter la demande. En fonction de certains droits, il y a des spécificités. On ne va pas répondre à une demande de droit d'accès comme on va répondre à une demande d'effacement. Ensuite, on va avoir la réponse qui va être apportée à l'individu. Une fois qu'on a traité la demande, on va devoir répondre à l'individu de ce qui a été fait. Et puis, ensuite, on va documenter et archiver le traitement de la demande à l'interne pour pouvoir prouver qu'on a bien répondu à une demande d'accès, d'effacement, de rectification et que ça a été fait de manière justifiée, dans les délais requis, etc. Donc, c'est vraiment les 5 éléments clés à avoir dans sa procédure pour pouvoir gérer ensuite la demande dans des délais corrects parce que même le risque, c'est de dépasser ce délai. Donc, il faut pouvoir le justifier aussi. Et puis c'est ça. C'est après, oui. Aussi, avoir une procédure, c'est aussi avoir un guide à l'interne pour que les employés qui seraient face à une telle situation sachent quoi faire. Et donc, c'est une base pour aussi former les employés à une gestion de telles demandes. Donc,
pour éviter l'improvisation, le cafouillage, pour avoir été témoin d'une certaine situation de cette nature-là, effectivement, c'est beaucoup mieux. Puis ça simplifie, puis ça diminue le stress des employés associés à ce genre de choses-là. Je vais revenir sur les différents points parce qu'ils sont intéressants. En soi, la réception, bon, c'est tel que tel, mais la validité de la demande, parce que dans quelle mesure l'organisation se permet d'évaluer justement cette validité-là, selon les différents droits évoqués?
Bah, on va parler de la validité, mais je veux quand même revenir sur la réception parce que pour avoir étudié ce sujet, c'est pas un aspect anodin de la demande parce que la réception, c'est savoir comment on va la réceptionner. Il y a plusieurs canaux de réception différents. On peut penser au courriel. En général, on va avoir en fait dans notre politique de confidentialité comme une adresse contact. Et en fait, c'est un élément très important, avoir une information claire des personnes de comment exercer son droit, parce que ça donne des guides à la personne à qui s'adresser et de maîtriser aussi les canaux de réception. Donc, ça pourrait se faire par courriel ou par courrier. Mais on peut avoir des cas où c'est une personne qui appelle, puis qui dit « je veux accéder à mes données, faites quelque chose ». Sauf que, en principe, la demande doit être écrite. Donc, on doit avoir une preuve écrite de la demande pour confirmer la réception, etc. C'est un des éléments, je pense, de validité de la demande. Puis, on va aussi avoir, par exemple, une demande qui se fait sur place. S'il y a quelqu'un, on va dans un supermarché et puis on veut demander les informations qui sont liées à ses renseignements personnels par rapport à son activité dans le supermarché, puis la carte de fidélité du supermarché, etc. ou la vidéosurveillance qui est faite. Il y a plein de cas. Dans ce cas-là, je pourrais aller à la réception du magasin du coin et dire « je veux accéder à mes renseignements personnels ». C'est aussi quelque chose à considérer. Comment on va enregistrer cette demande? Est-ce qu'on va avoir un formulaire de demande d'accès qui est signé par l'individu et au moment duquel on va identifier la personne, qui est un élément de la recevabilité de la demande? Donc, cet aspect de réception de la demande est clé. Il faut pouvoir le maîtriser et aussi maîtriser les cas qu'on n'a pas forcément prévus pour que la demande remonte bien à la bonne personne qui va gérer le droit. En général, ça va être le responsable de la protection des renseignements personnels, le délégué à la protection des données ou tout équivalent. Donc ça, c'était juste pour revenir sur la réception.
Ouais, t'as tout à fait raison parce que ça m'a rappelé un cas où j'ai vu une demande qui est passée par Twitter initialement. Fait que c'est un élément comme ça où, en tout cas, la dite personne s'est frustrée parce qu'elle n'a pas été traitée dans les temps, parce que l'organisation ne surveillait pas cette avenue-là de dénonciation ou de demande potentielle. Et ça l'a amené à un certain cafouillage parce que Twitter est un bel endroit pour chialer publiquement. Donc, s'il n'est pas bien entretenu, il n'est pas bien intercepté dans les délais que la personne croit être nécessaire, que ça soit fondé ou pas, que son droit n'est pas respecté, ben là, ça va créer un certain bruit médiatique que généralement, on essaie d'éviter, qui n'est pas très agréable dans tous les cas. Mais oui, il faut être... Oui, la réception et les fonctions sont très importantes.
Oui, les réseaux sociaux, c'est vraiment le piège aussi. C'est que les personnes peuvent publier quelque chose sur Twitter ou envoyer un message privé sur Facebook, j'en sais rien, sur Instagram. Puis en fait, la personne qui gère le réseau social n'est pas en mesure d'identifier et ne comprend pas ce que c'est « je veux accéder à mes données » ou « je veux effacer moi ces données ». Puis la pire situation, c'est que la personne réponde à la demande et par exemple une demande à l'effacement, elle efface tout. Sans se poser la question, est-ce que j'aurais dû effacer? Parce que chaque droit, ce n'est pas des droits absolus, il y a des conditions. Donc c'est ça. Le risque, c'est que la personne prenne l'initiative aussi de répondre et qu'elle le fasse de manière inappropriée. Donc c'est un des éléments clés, en effet.
D'autant plus, c'est important de former nos gens qui gèrent les médias sociaux ou toutefois la première ligne en général, justement, que quand il y a ce type de demande-là, les diriger au bon endroit. Puis tu mentionnais clairement qu'il faut que la demande soit dans un certain format, justement pour la validité. C'est une belle façon de glisser vers... Qu'est-ce que la validité de la dite demande?
C'est ça. En fait, une des premières grosses phases de l'organisation, ça va être d'identifier si la demande est recevable. Donc, on va déjà identifier la personne qui a fait la demande et on va demander de justifier de son identité. Puisqu'on parle de renseignements personnels, je dirais que c'est important, la pièce d'identité, le passeport, c'est pas forcément une pièce qu'on va demander automatiquement parce que ça comporte des données assez sensibles. Ça devrait pas être automatique de demander ce type de justificatif, pièce d'identité. Mais par exemple, on peut demander des informations combinées, comme par exemple, c'est une demande d'un employé, on va demander son nom, prénom, son adresse et puis son numéro d'employé, numéro de matricule. Si c'est une demande d'un client, on va demander son numéro de client, un numéro de facture, par exemple, et puis sa date de naissance, parce qu'on demande sa date de naissance pour je ne sais quelle raison, et c'est une donnée qu'on a dans le système client. Donc, c'est bien de pouvoir identifier la personne, d'une manière autre que systématiquement la pièce d'identité, parce qu'après, il faut pouvoir la gérer. On pourra y revenir dessus. Mais c'est ça. Donc, il faut pouvoir identifier l'identité du demandeur. Mais il faut aussi faire attention parce que le demandeur, ça pourrait ne pas être la personne concernée directement. Ça pourrait être un représentant, ça peut être aussi quelqu'un qui a l'autorité parentale pour un mineur. Ça peut être quelqu'un qui gère la succession d'un individu. Donc, il y a des cas particuliers où ce n'est pas la personne concernée qui va directement faire la demande. Donc ça, il faut pouvoir l'identifier, qu'on a un justificatif que cette demande, que cette personne a bien le droit de faire la demande au nom et pour le compte de la personne concernée à terme. Donc ça, c'est aussi un élément qui est lié à la validité de la demande. Et puis après, on a tous les aspects de la recevabilité d'un droit, parce que il y a des conditions à l'application de certains droits. Par exemple, au droit à l'effacement, ce n'est pas un droit absolu, comme je disais. Donc, des fois, on ne peut pas répondre à telle demande parce que ça va à l'encontre des aspects de protection de la justice. Ça peut être aussi parce que... il y a la liberté d'expression, donc on ne peut pas effacer. Ou après, il y a des obligations légales de conserver pour telle durée des informations de finance, par exemple. Donc, il y a des éléments de recevabilité. Aussi, il y a l'aspect, en Europe, je parle, parce que au Canada, Québec, le consentement est un des éléments phares pour justifier le traitement des renseignements personnels. En Europe, on a 6 justifications possibles pour traiter des renseignements personnels. Et certains des droits en Europe vont s'appliquer seulement si le traitement se fait sur la base du consentement, par exemple. Donc ça, c'est des conditions de recevabilité qu'il faut gérer. Puis, une fois qu'on a identifié la recevabilité, il y a plusieurs situations qui peuvent se présenter. Le premier cas le plus facile, c'est que la demande, elle est valide et on peut traiter. Donc là, en général, on pourrait envoyer un accusé de réception à la personne pour dire « on a bien reçu, votre demande est bien valide, on va la traiter dans tel délai ». Donc en général, c'est 30 jours à partir de la réception de la demande. Ensuite, on va avoir le cas de figure où la demande est incomplète parce qu'on a besoin d'une pièce d'identité, d'une justificatif d'identité complémentaire. Donc là, il faut envoyer une demande au demandeur pour avoir des informations complémentaires. Puis on peut avoir 2 autres cas de figure, les demandes qui sont abusives parce que c'est une demande répétitive ou qui est injustifiée ou qui est excessive parce que c'est une personne, ça fait 3 fois qu'elle demande son droit d'accès aux informations dans un délai d'un an. Ce qui est un petit peu abusif. Ça, c'est du temps aussi et de l'argent pour l'organisation. On peut avoir aussi des demandes qui se font, je ne sais pas, tous les 2 mois, tous les 3 mois, une demande d'effacement, une demande de je ne sais quoi, de modification. Donc ça aussi, c'est des conditions qui pourraient amener à refuser le traitement de la demande. Et à ce compte-là, il faut en informer la personne aussi. Et puis, il va y avoir le cas où on ne peut simplement pas donner suite à la demande parce que l'organisme ne traite pas de renseignements personnels de la personne ou parce que, justement, le droit à l'effacement ne peut pas s'appliquer, le droit à la portabilité ne peut pas s'appliquer parce que les conditions ne sont pas remplies, etc. Donc, ça aussi, il faut pouvoir y répondre. Donc, ça, c'est comme...
Ouais, c'est comme le droit à l'effacement qui a une portée très restreinte. Mais c'est même, tu parlais de désindexation et de non-effacement. Là.
Oui.
Ce droit-là, il a une portée excessivement restreinte. Puis, dans la tête des gens, il est beaucoup plus grand que ce que l'application réelle de ce que la loi nous permet, le droit nous permet vraiment d'exécuter. C'est un très bel exemple.
Je pense que c'est un des meilleurs exemples de dans quel cas on pourrait ne pas avoir son droit s'appliquer. Parce qu'il y a tellement de conditions particulières. Puis c'est normal, en fait. À un moment donné, si on collecte et on traite les renseignements personnels. C'est aussi pour des raisons, parce qu'on a des obligations légales. On a des obligations de faire aussi tourner les affaires de l'entreprise. Donc, au bout d'un moment, tout ne peut pas être effacé. On doit garder des traces. C'est juste qu'après, il va falloir s'assurer qu'on a bien les bonnes mesures en place pour conserver de manière appropriée. Mais c'est ça, on ne peut pas tout effacer. Un compte du jour au lendemain d'un utilisateur parce qu'il n'est pas content comme d'une chose, puis on efface tout. C'est pas la solution.
Ouais, ça l'amène justement au traitement de cette demande-là qui, justement, dans certains cas, des complications qui peuvent quand même être insoupçonnées par les organisations parce que ça fasse même, ça a l'air comme utilisateur, citoyen, ça a l'air facile. Effacez-moi, je vais disparaître de votre système. La réalité, il n'est pas tout à fait, ou même le droit à la portabilité, donnez-moi mes informations, tous ces éléments-là ne sont pas aussi simples qu'il n'en paraît.
C'est ça. En fait, dans l'aspect traitement de la demande, il y a beaucoup d'éléments et c'est très spécifique à chaque droit aussi. Donc, dans la procédure qu'on va créer, on va avoir les éléments généraux qui s'appliquent à tous les droits, puis après, chaque spécificité qui s'applique à chaque droit, parce que chacun s'applique de manière différente. Et un des éléments très importants à toujours garder en tête, c'est le délai de traitement de la demande. Là, on a déjà fait la réception, l'analyse de la recevabilité. Ça peut prendre 3-4 jours en fonction de si on est efficace. Puis, le délai en général de traitement d'une demande, c'est 30 jours. Sauf certains cas, je dirais, en Alberta, je crois, c'est 45 jours. Et il y a l'exemple du Brésil aussi qui a des délais plus longs. Puis en Europe, en fait, on a aussi la possibilité de demander une prolongation de délai de 2 mois supplémentaires si la demande est plus complexe, mais il faut pouvoir le justifier. Donc en tout cas, il y a cet aspect de durée et de délai pour répondre à la demande qui est déjà très complexe, qui est un facteur très important. Donc, un des aspects le plus dur à gérer, c'est comment on va répondre à une demande et comment on va faire appliquer le droit. Tu parlais du droit à l'effacement. Alors, s'il s'applique, c'est qui a des données? Est-ce qu'on a transféré les informations à des tiers? Et à ce compte-là, c'est à l'organisme qui a reçu le droit à l'effacement qui gère ces tiers pour les informer eux-mêmes que les données doivent être effacées. Et puis, il y a aussi l'aspect des données qui sont sauvegardées. Est-ce qu'on doit supprimer les données de nos backups pour s'assurer que c'est propre? Ça, c'est des...
Ouais. Celle des backups est intéressante. J'aime ça que tu la soulèves parce que j'ai eu un cas chez un client il y a quelques temps de ça où justement, il y avait dans les différents éléments, il devait... Suite au traitement, c'est un exemple qui est spécifique, qui n'est pas dans la loi dans ce cas-ci, là, qui était vraiment pour ce client-là, qu'une fois que l'exercice était terminé, il fallait que l'ensemble des données disparaissent également. Et le fournisseur a dit « Ouais, non, on ne peut pas faire ça parce que nos backups, c'est compliqué d'aller effacer les données dedans. » C'est des notions comme ça qu'il faut commencer à mieux maîtriser justement parce que je pense que puis j'ai vu nulle part pour le moment où les systèmes doivent être conçus maintenant avec cette perspective-là que ça va arriver parce que si c'est pour coûter très cher à chaque fois, on est beaucoup mieux de commencer à faire un design de système qui est capable de traiter ces demandes-là qui vont devenir probablement beaucoup plus importantes avec les années. Et je pense qu'on peut facilement prédire qu'il va y avoir un autre renforcement de la loi probablement dans 5 ou 10 ou 15 ans qui va aller encore plus loin que ce qu'on a présentement. Donc, il faut quand même en tenir compte.
Oui, pour les organismes, il y a cet aspect de réalité. Est-ce qu'on est capable de répondre à la demande avec les outils qu'on a aujourd'hui, surtout pour le droit à l'effacement? Et après, c'est tout l'aspect du principe de privacy by design, où en fait, celui qui développe son application, par exemple, il doit, dès le départ, considérer la protection des renseignements personnels et les enjeux qui sont derrière, incluant les sauvegardes, potentiellement. Donc ça, c'est en soi, ce concept de privacy by design, privacy by default, devrait... C'est comme le justificatif peut-être qu'on a dans la loi pour dire que le développement d'outils, d'applications, de systèmes, etc. devrait considérer ces aspects-là. Je pense que c'est là où on peut le justifier. Mais très compliqué. c'est un gros sujet. Et puis, même moi, dans la pratique, je pense qu'est-ce qui... Parce qu'il faut que ce soit raisonnable aussi pour l'organisation. Faut pas non plus que... Enfin, respecter les droits des personnes, c'est très compliqué et c'est là où on est dans une situation. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on met de l'argent pour s'assurer qu'on n'a plus aucune donnée, etc. ? Ou est-ce qu'on fait en sorte de les gérer petit à petit et supprimer au fur et à mesure ? C'est un gros sujet. Parfois, c'est difficile de conseiller l'organisation, oui, sur ces aspects-là parce qu'on a comme notre vision, faut protéger les individus en premier.
Mais c'est ça pour les sujets, les systèmes déjà existants, c'est très complexe. Pour les futurs systèmes, moi, je suis un des défenseurs de effacer donc tout ce que vous n'avez pas de besoin, effacez-le. Gardez jamais, oui, des informations que vous n'avez pas besoin. Ça fait longtemps que je dis de jamais garder d'informations en surplus. Au-delà de choses, la loi le dit très clairement aussi maintenant, ce qui était un peu pas, c'était pas nécessairement le cas avant. Là, c'est très, très clair que ne conservez que pour son utilisation, une fois que l'utilisation est terminée, de l'effacer. Fait que c'est d'amener à cette chose-là. Je suis loin d'être convaincu que c'est largement une application parce que c'est très complexe à mettre en œuvre, mais ça fait longtemps que je le conseille parce que juste d'un point de vue de sécurité pure et dure, plus on a de données, plus on est un attrait pour les attaquants. Donc, moins on a de données, moins on est un attrait. Donc, ça devient incidemment, on se protège par être moins attrayant dans ce cas-ci.
Oui, c'est ça. Bah, ça rejoint les aspects de durée de conservation des données. Au-delà du droit à l'effacement, les données devraient être effacées au bout d'un certain délai, une fois que la période d'archivage est terminée, pour justement limiter les risques si jamais on a une attaque contre notre organisation. Bah, au moins, le nombre de personnes qui peuvent être impactées va être limité. Et typiquement, si une personne a demandé l'effacement de ses données, qu'on a confirmé que ces données étaient effacées, et que du jour au lendemain, on a une attaque. Et puis, on a cette personne qui se retrouve dans nos fichiers de personnes qui ont été impactées par la violation. C'est un peu compliqué de gérer ça pour l'organisation.
Ça va être un peu gênant, ce genre de situation-là. Et puis, je ne serais pas surpris qu'on en voit à l'avenir de cet élément-là. On n'en a pas, en tout cas, à mon sens, pas encore vu de cas comme tu mentionnes, mais c'est une question de temps avant qu'on commence à voir justement des cas où les gens avaient fait l'effort de se faire extraire d'un système et où le fermer leur compte, ou peu importe la stratégie qui est faite. Puis d'ailleurs, la fermeture d'un compte, c'est un parcours du combattant pour beaucoup de fournisseurs pour réussir à se faire effacer, disparaître de leur système. C'est pas facile parce qu'ils veulent pas généralement que tu quittes. Et c'est très difficile, mais pourtant, ce droit-là est protégé aussi. Là, on n'est pas supposé avoir à trouver ça très difficile. Mais bref, si on se retrouve justement dans des fuites qui sont associées, les poursuites qui vont y avoir, ça va être... ça risque d'être assez fou, mais je pense que ça va probablement sensibiliser les gens. Les gens, de toute façon, dans ce sens-là, les entreprises ne bougeront pas tant qu'il n'y a pas de poursuites. En Europe, il y en a beaucoup. Il y a le GDPR tracker, je pense, je ne sais pas si c'est toi qui m'en avais parlé, justement, qui est une belle source, puis je suis allé m'y référer à plusieurs reprises parce que c'est très intéressant de voir parce que on entend ce qui est dans les médias, ils ont Facebook ou Meta ou ces grandes compagnies-là qui se font taper sur les doigts par une des législations, par un des pays. Mais quand on arrive avec des plus petits cas, puis il y en a beaucoup de petits cas à 5 000, 10 000, 15 000 euros d'amende, et il y en a beaucoup plus qu'on pense, puis c'est des éléments très simples de mauvais traitement, mauvaise manipulation, fuite d'informations, même mineurs, c'est genre un courriel à la mauvaise personne, et des éléments comme ça qui sont en place. Il y en a vraiment beaucoup. Puis c'est ça que les gens, je pense, ne maîtrisent pas à quel point tous ces petits 15 000 $-là, pour une grande un méthode de semence, ça ne change rien. Pour une PME ou une TPE, 15 000 $, ça peut faire une différence assez substantielle.
Oui, c'est ça. Puis si c'est un 15 000, 10 000 $, c'est aussi parce que ça correspond au fait que le chiffre d'affaires de l'entreprise est petit et la limite de 10 millions ou 25 millions, bah finalement, ça ne peut pas être considéré. Donc, on va prendre le chiffre d'affaires comme référence. c'est 4% du chiffre d'affaires ou 5%, je ne sais plus. C'est conséquent, très conséquent. Donc, c'est clair qu'il faut avoir tout ça en tête.
Bref, ben, glissons à la réponse, qui est le quatrième pilier que tu mentionnes, justement. Comment cette réponse-là doit être formulée? Parce qu'on ne peut pas juste improviser puis faire à peu près n'importe quoi. Il y a quand même un certain nombre, même si ce n'est pas nécessairement prescrit dans la loi de façon très claire, il y a quand même des balises qui s'y trouvent. Là.
Oui, c'est, ben, en fait, une fois qu'on aura fait le traitement de la demande, on aura identifié, notamment pour un droit d'accès, qui est aussi un droit très, très compliqué à gérer, parce que là, il faut aller chercher auprès de chaque service dans l'organisation les données qui ont été collectées, pour quelles raisons, parce qu'en plus, il faut informer les personnes de ce qui est fait et expliquer les données qui sont collectées. Donc, c'est encore un niveau d'information supérieur. C'est pour ça que là, avoir un registre de ces ou un inventaire de ces activités, de ces utilisations de renseignement personnel, est un élément clé. Parce que grâce à ça, on va savoir tout de suite quel service traite des renseignements d'un employé, d'un client, d'un candidat à un emploi, par exemple. Donc, ça facilite aussi le traitement. Je reviens à mon registre, hein, donc, ma cartographie, mon inventaire, peu importe le nom. Mais c'est encore un élément tellement important pour aider au traitement. Et donc... quand on va récupérer ces informations, on va devoir faire une réponse à la personne avec la copie des informations quand c'est un droit d'accès. Quand c'est un droit de portabilité, c'est en plus des caractéristiques spécifiques parce que c'est sous un format électronique compréhensible et lisible. Donc, il y a comme des critères un peu, un peu étranges à pouvoir faire respecter. Donc, il va falloir faire une réponse à la demande. La première chose, c'est d'avoir un courrier du responsable de la protection des renseignements personnels ou des PO, celui qui, en tout cas, est responsable de gérer la demande, qu'il fasse un courrier au demandeur attestant que la demande a bien été traitée et faire état de ce qui a été fait pour traiter la demande. Ça, je pense que c'est important que la personne sache ce qui a été fait, parce que pour un droit d'accès, c'est facile, on va aussi... Enfin, facile entre guillemets. C'est facile de voir ce qui a été fait parce qu'on va avoir la copie des renseignements personnels. Pour un droit à l'effacement, bah, si on ne fait pas une réponse en expliquant ce qui a été fait, qu'on a contacté les sous-traitants pour faire effacer les données, pour un droit à la rectification, va confirmer que les données ont été modifiées dans le fichier client ou des ressources humaines ou peu importe, bah c'est pareil, il faut pouvoir le justifier, leur dire que ça a été fait. Donc je pense que ça, c'est un élément important. Puis après, c'est ça, quand on a un droit d'accès, un droit à la portabilité, il faut aussi transmettre les informations dans un format sécurisé parce que c'est tout un contenu de renseignement personnel qui va être transféré à un individu. Que ce soit par courriel, j'espère pas, mais en tout cas, on peut avoir des données qui sont transférées par courriel, par courrier. Donc, il faut trouver un bon moyen aussi de sécuriser ça. Un format simple aussi. Donc, puis c'est, parfois, il y a tellement de données qu'il faut savoir comment faire. Mais c'est ça, ça, faut le considérer. Et puis, je pense à l'Europe. Quand on va demander, quand un demandeur va faire une demande, le principe, c'est qu'on doit répondre sous le même format qu'il a et sous le même canal qu'on a eu la réception. Donc, s'il a fait une demande par courriel, on est supposé répondre par courriel. S'il a fait une demande par courrier, on est supposé répondre par courrier. Donc ça, c'est des spécificités européennes. Je ne sais pas à quel point on peut l'appliquer au Québec, parce qu'il ne me semble pas qu'il y ait des exigences particulières à ce sujet-là. Mais ça peut être de toute façon une pratique assez logique aussi, parce que quand on va faire une demande par courriel ou à travers un formulaire de contact du site internet, en général, l'information qu'on va recevoir, c'est de l'adresse courriel et on n'aura pas son information d'adresse postale. Donc, c'est aussi assez logique. de pouvoir faire une réponse par le même canal. Et puis, c'est ça, quand on va transférer des renseignements pour un droit d'accès, un droit à la portabilité, peut-être qu'il y a un canal sécurisé qui pourrait être privilégié, qui pourrait être mis en place. Je pense notamment aux grandes compagnies comme Facebook, Spotify, ce genre de compagnies. Elles ont en principe, et si ceux qui nous écoutent veulent tester, il y a un moyen en général mis en place par des organisations, les grandes organisations comme ça, où le droit d'accès peut se faire en ligne. Et donc, à la fin, on va avoir un accès avec un lien où on peut cliquer dessus et ça fait un téléchargement d'un fichier zip avec tous les renseignements qui nous concernent. Normalement, c'est assez rapide, mais c'est un bon test pour voir à quoi ça ressemble. Mais il y a plein de moyens de répondre aussi à ce type de demande de manière sécurisée. Donc, c'est ça. Et puis, dans la réponse qu'on va faire à la personne, il ne faut pas oublier que cette personne pourrait porter réclamation après. Et donc, dans le courrier de réponse, il faut donner la possibilité à la personne de porter plainte, entre guillemets. C'est un peu effrayant de dire ça, parce que bon, on n'a pas trop envie qu'elle porte plainte, mais il faut donner quand même la possibilité à la personne de pouvoir faire réclamation et pouvoir, si la réponse ne leur plaît pas selon eux, de pouvoir exercer leur droit justement de porter plainte.
Puis le porter plainte, selon les législations, ça se fait auprès de l'entreprise ou auprès de l'autorité réglementaire?
Pour moi, je pense à l'autorité réglementaire parce qu'au moment où on fait la réponse, c'est la position de l'entreprise. Donc après que l'organisme, que la personne dise « Non, mais ça ne me plaît pas ce que vous avez fait », c'est quand même difficile pour l'organisme de changer de position. Donc en général, la plainte, ça va se faire auprès de l'autorité de contrôle. Et aussi, quand on va faire une réponse, parfois on va avoir des situations complexes de réponse à l'individu. On est en train de parler de la réponse qui est faite quand la demande est valide, mais même quand la demande est abusive ou qu'on ne peut pas y répondre, il y a parfois, c'est parce que on est dans une situation, un conflit judiciaire avec la personne, où le traitement de la demande, s'il n'est pas possible, on ne peut pas répondre à sa demande, ou c'est dangereux, etc. Là, c'est en général la personne qui gère la demande, donc le responsable de la protection des renseignements personnels, va répondre normalement, mais quand c'est une demande à risque, qui peut présenter des risques ou qui est sensible, là, en général, on va aller demander une sorte de soutien de l'équipe juridique, si le responsable ne fait pas partie de l'équipe juridique, ou même au responsable de l'entreprise, le président, en tout cas la personne à la tête de l'organisation, pour confirmer la position de l'organisation par rapport à la réponse. Ça peut être aussi un cas à considérer quand on répond à une demande. Donc, c'est ça. Je dirais, pour la réponse.
Mais oui.
Puis, juste pour la réponse, moi, j'aurais une recommandation à faire parce que je mentionnais les délais et je reviens souvent aux délais parce que c'est un enjeu crucial. Mais pour faciliter aussi la réponse aux demandes, c'est bien, je pense, dans sa procédure d'avoir des modèles types de lettres qu'on va faire dans chaque cas. Donc pour une demande abusive, pour un accusé de réception, pour une demande d'information supplémentaire et pour une réponse qu'on va faire pour un droit d'effacement, un droit de modification, droit d'accès. C'est toujours bien d'avoir ces types de modèles parce qu'au moins on sait quoi faire. Et le jour où, parce qu'il faut considérer aussi le jour où le responsable ou le DPO, le RPRP ou le DPO, n'est pas disponible, il est en congé vacances ou maladie, et que la demande doit être répondue et que ça doit être une autre personne qui doit gérer ce droit à ce moment-là, c'est bien qu'ils sachent et qu'ils aient ce guide et qu'ils aient comme un modèle de réponse qui doit être fait. Au moins, on a comme une sorte de cadre qui est précis et sur lequel on peut se reposer si la personne n'est pas là.
Oui, effectivement, ça c'est en tant qu'à moi universel qu'on devrait pas répéter deux fois le même geste. Fait que si effectivement on peut avoir des gabarits déjà préfaits ou des modèles, c'est vraiment un must, justement. Puis ça accélère le traitement, ça évite les erreurs, ça fait que bon, on peut traiter ça de façon plus efficace. C'est la mécanisation, puis je pense que dans l'absolu, il y a beaucoup de ces éléments-là qui vont se mécaniser. Les grands l'ont déjà fait, comme les demandes d'accès chez Facebook, par exemple, il est déjà mécanisé. Chez Twitter aussi, d'ailleurs, puis sont tous comme ça. Fait que ça leur évite de mettre un traitement humain où la machine peut faire probablement 80-90% du travail elle-même. Donc, à ce moment-là, il y a un gain relatif face à ce genre de choses-là.
Exactement.
Dernier point, tu avais mentionné documentation, qui est quand même la trace qui doit être gardée à l'intérieur de l'entreprise. Dans le cas, justement, dans l'étape précédente, s'il y a une plainte qui est menée, on doit quand même justifier à l'autorité réglementaire, l'autorité de contrôle, qu'on a fait notre travail et qu'on a fait ça correctement.
C'est ça. Il faut toujours être capable de montrer qu'on a fait une bonne réponse à la demande et que toutes nos réponses sont justifiées. Parce que si on fait un refus de répondre à la demande à cause de son invalidité, il faut pouvoir le justifier aussi. Donc, il y a peut-être des éléments, des échanges à l'interne qu'on veut conserver. Donc, en fait, Là, je prends un peu le modèle de ce qui peut être fait pour la gestion d'une violation de données, pardon. Où là, on a une exigence d'avoir un registre qui est très spécifique. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble pas que ce soit une exigence d'avoir un tel registre pour les droits des personnes. En Europe, c'est pareil, je veux pas dire de bêtises parce que j'ai un doute là présentement. Mais je dirais que c'est bien d'avoir quand même une trace avec un registre des demandes qui ont été effectuées sur les dernières années, où on va inclure l'identification du demandeur, identifier si oui ou non la personne elle a été bien identifiée, si c'est un représentant qui a fait la demande, qui l'a fait, et puis la manière dont la demande a été traitée, entre guillemets. Donc, quel était le type de droit qui a été exercé, et puis une sorte de résumé de ce qui s'est passé pour la gestion de la demande. Sachant qu'en parallèle de ce registre, on va avoir un dossier qui est sécurisé, qui est accessible de manière très limitée, idéalement qu'au DPO, où on va avoir l'archivage des informations qui ont été transmises et tous les échanges qu'il y a pu y avoir avec les organismes tiers qui ont aidé au traitement de la demande, avec les services à l'interne. Donc tout ça devrait faire partie d'une sorte de dossier dédié à une demande, et donc pour pouvoir garder et pouvoir le prouver. Alors après, en termes de délai, combien de temps on va garder ces registres, je dirais que ça dépend des législations qui sont applicables par pays. Je me souviens de cas en France où on s'appuyait sur le code de procédure pénale et le code civil pour identifier combien de temps on durait. Donc, on avait comme un délai de 5 ans pour conserver les informations liées à la demande. Et puis, on avait pour les pièces d'identité, comme le passeport ou la carte d'identité, c'était un délai d'un an pour toutes les demandes, sauf pour le droit d'opposition qui était un délai de 3 ans. Ça, c'est très particulier à la France, c'est un souvenir que j'ai, mais probablement on peut trouver des durées de conservation un peu similaires où on fait la distinction entre les pièces justificatives d'identité et puis le dossier en tant que tel pour pouvoir prouver la manière dont on a répondu et qu'on a bien fait tout le processus de diligence raisonnable pour répondre correctement. Ça, c'est clé si jamais il y a une plainte par rapport au traitement de la demande, que la demande a été sensible. Donc, c'est pour moi, je pense, un élément important aussi. Puis, il faut ensuite pouvoir gérer ces délais puis supprimer au bon moment pour ne pas garder ces données indéfiniment dans son dossier de DPO, parce que c'est quelle horreur.
Oui, c'est des données sensibles aussi. Fait qu'on est comme dans une double situation pour mettre en œuvre l'application du droit, on doit collecter des informations qui deviennent être protégées par la même loi, et puis ensuite incidemment par le même droit plus tard. Donc c'est comme une boucle. Celle-là, je la trouve terrible parce que ça crée de la donnée personnelle quand on voudrait s'en débarrasser.
C'est ça. Ben, puis j'étais tombée sur un cas où En 2018, j'avais fait justement des recherches par rapport au droit d'accès. Et une des choses qu'on avait fait avec les personnes avec qui j'avais travaillé, c'était faire des demandes de droit d'accès auprès de plusieurs organismes. Et une des entités auxquelles j'avais fait la demande, c'était La Poste. La Poste en France, mais c'était à l'entité qui était à Lyon. Et donc, eux, ils n'avaient aucune donnée me concernant chez eux à Lyon. Et en fait, j'ai reçu quand même un papier m'expliquant que j'avais fait une demande de droit d'accès et c'était les seules données qu'ils avaient sur moi. Donc finalement, ils avaient comme un enregistrement dédié à l'enregistrement des données qui était fait par le DPO. C'était intéressant à voir et c'est là qu'on se rend compte que finalement, on demande nos données, mais en plus, on donne des données supplémentaires pour qu'on traite notre demande. Et puis, ils vont les avoir à traiter pour le droit d'accès particulièrement. C'est créer tout un dossier puis aller fouiller dans les données. Donc, c'est assez spécial, mais c'est un challenge assez sympa pour voir comment c'est géré si on est en retard, si les délais sont respectés. En tout cas, ça peut être le fun si on a le temps. Après, c'est quand on est dans le domaine de la protection des données, ça peut être le fun, mais pas pour tout le monde. Ça dépend l'humour qu'on a. Mais
ouais, bah, ça dépend du domaine dans lequel on est et de la passion qu'on a pour ce même domaine-là, justement, d'amener ces petits défis-là qui amènent justement cette complexité-là inhérente à ce qu'il y en est. Là. Fait que, bref, ça fait le tour de pas mal ce qu'on voulait parler. Est-ce que d'autres points qu'on n'a pas abordés que t'aimerais discuter?
Honnêtement, je pense que même pour ceux qui nous écoutent, il y a déjà beaucoup qui a été dit. Donc, à moins qu'ils aient des questions qu'ils veulent qu'on développe, je dirais qu'on peut s'arrêter là juste pour le respect des personnes qui nous écoutent.
C'est parfait.
C'est massif.
Oui, très beaucoup. Je te remercie énormément. Ça a été très instructif, très intéressant encore une fois.
Je te remercie à toi. C'est un plaisir.